Odile Descolles à portée de notes. Bonjour à tous, aujourd'hui sur À portée de notes, une émission champagne dédiée au compositeur Johann Strauss et en particulier à son opérette viennoise, La Chauve-souris. Après cette ouverture de La Chauve-souris, eh bien, des Strauss, d'où vient la famille de Strauss, ses plus grands maîtres de la valse de la fin du XIXe siècle? Eh bien, le grand-père Johann Michael Strauss quitte un jour sa Hongrie natale, il est valet de chambre et va s'installer avec son maître à Vienne, où il embrassera plus tard la profession de tapissier ambulant. Son acte de mariage, daté de 1762, dans un registre de la cathédrale Saint-Étienne, le désigne comme juif baptisé. Les autorités du Troisième Reich, épouvantées plus tard par cette découverte, feront confisquer le registre pour le remplacer par une copie. En effet, si les lois raciales avaient été appliquées, il aurait fallu interdire la musique la plus populaire de toutes et priver les pays germaniques d'un revenu considérable. Quoi qu'il en soit, John Michel va donner naissance à des fils, dont le second va épouser la fille d'un cocher qui tient une taverne à Leopoldstadt. C'est là que naît, en 1801, Johann Strauss père, qui trouve très tôt sa vocation en jouant sur le petit violon que lui offrent ses grands-parents. Il devient virtuose du violon, il forme un ensemble au Prater, qui est un grand jardin public à Vienne, avec Lanner, qui est un autre virtuose, en 1824. Johann va tomber amoureux de la fille d'un gérant d'une taverne où il jouait. Il va l'épouser et il va lui donner trois fils, Johann, Joseph et Édouard. Ce sont ces trois-là qui seront les plus connus en matière de valse et qui deviendront musiciens. Qui deviendront d'ailleurs musiciens contre le gré du père, qui trouve que ce ne sont pas des professions très stables. Mais malgré tout, cela va créer bien sûr des disputes. Et c'est lorsque Johann père part chez sa maîtresse, elle qui il va faire 7 enfants quand même, que sa femme emmène ses fils à leur leçon de violon. À quoi tient une vocation quand même, hein. Bref, Johann Strauss, fils, va donc créer le Bon Danube Bleu en 1867 et il va créer cette opérette que nous connaissons tous, La Chauve-souris, dont nous venons d'écouter l'ouverture. Je vais vous en conter le synopsis. C'est là que la réalité rejoint la fiction. Nous sommes au premier acte chez un nommé Eisenstein. Il est en compagnie de sa femme Rosalinde et dehors chante Alfred. Alfred est l'amant, il est tenu par le ténor, et l'amant de Rosalinde qui chante sous ses fenêtres. Eisenstein doit partir le soir même en prison pour 5 jours. Survient dans le salon Adèle, qui est la femme de chambre, qui vient de recevoir une lettre de sa sœur Ida, l'invitant le soir même au bal donné par le prince Orlovski, grand prince de la région qui a l'habitude de donner des bals somptueux. Et bien sûr, Adèle se dit « je dois être élégante, alors tant pis, je prendrai une robe à ma maîtresse, elle n'y verra que du feu. » Mais il faut avoir son congé. Donc elle prétexte sa mère malade afin d'obtenir son congé auprès de sa maîtresse qui refuse pour le moment. Arrive dans le salon Blint. Blint est l'avocat qui a défendu Eisenstein au cours de ce procès où la solution a été de le mettre en prison. Et il arrive et il lui dit que sa peine, malheureusement, a été prolongée de 3 jours. Le voilà donc parti dès le soir même en prison pour 8 jours. Mais c'était sans compter Falke. Falke, le meilleur copain, soi-disant, le meilleur copain de Eisenstein. Il arrive et lui dit « Oh, écoute, franchement... La prison, ça peut attendre demain matin. Le prince Orlovski organise un grand bal ce soir. Écoute, on dit rien à ta femme. Je t'embarque ce soir. Tu iras en prison demain pour 8 jours. Pas de problème. » Eisenstein accepte volontiers en disant « Surtout, t'en parles pas à ma femme. Bon, très bien. » Adèle revient pour implorer son congé et finalement l'obtient. Parce que Rosalinde, la femme d'Eisenstein, comprend que son mari va partir en prison le soir même. Et que donc elle va être toute seule, et que si elle n'a pas sa bonne près d'elle, elle sera encore d'autant plus libre pour recevoir son amant, Alfred, qui est sous ses fenêtres. Elle lui donne donc l'autorisation, son congé, de partir voir sa vieille mère malade. À la grande surprise de Rosalinde, Eisenstein revient en frac, en smoking, dans le salon pour lui dire qu'il part en prison sur le champ. Elle est quand même très étonnée de le voir partir en smoking. Bon, enfin bon, comme elle est sûre de voir son amant le soir, elle ne dit trop rien. Et alors, feignant la douleur de la séparation, Rosalinde et Eisenstein se lamentent, alors que chacun d'eux, finalement, ne pense qu'à la délicieuse soirée qui l'attend. Oh, Magnifique duo de ces époux, magnifique de mauvaise foi néanmoins, puisque Rosalind dit « je vais m'ennuyer seule » et bien sûr Eisenstein répond « moi aussi la prison va être dure ». Néanmoins, ils attendent la soirée avec impatience. C'est ainsi qu'Alfred, l'amant, eh bien, s'introduit dans la maison d'Eisenstein, il surgit et s'installe et s'habille dans les vêtements d'intérieur du mari afin de se donner l'illusion d'être le mari de Rosalind. Quand arrive Frank, qui est le directeur de la prison, qui vient chercher Eisenstein pour le mener lui-même en prison, avant de se rendre lui aussi à la soirée offerte par le prince Rolovski. Naturellement, Frank prend Alfred l'amant pour le mari. Et forcément, il est dans les habits du mari. Et Alfred ne dément pas. Et dans le but de préserver la bonne réputation de Rosalind, Alfred se laisse arrêter et part donc dans les geôles du prince Orlovski. Nous arrivons à la fin de l'acte 1. Va maintenant s'ouvrir l'acte 2 chez le prince Orlovski le soir du bal. Orlovski, la fête bat son plein. C'est un prince qui s'ennuie parce qu'il n'a plus d'intérêt dans la vie. Il est richissime, il fait ce qu'il veut, il n'a plus d'illusions. Mais il va en avoir ce soir. Adèle, la servante, retrouve sa sœur Ida au milieu du bal, surprise de la trouver là, car jamais Ida n'a envoyé de lettre pour l'inviter au bal. Mais bon, elle la présente néanmoins au prince comme une artiste, une grande artiste au nom de Olga. Falke, le grand ami d'Eisenstein, avoue au prince, qui semble blasé des fêtes, qu'il lui a concocté une surprise intitulée « La vengeance d'une chauve-souris » qu'il fera rire. Arrive Eisenstein, qui devait être en prison, mais qui vient là, qui arrive avec son frac, et qui est présenté sous le nom de Marquis Renard. Eisenstein, qui prend une coupe de champagne, croit reconnaître au loin Adèle, sa servante. Mais Adèle dément tout à fait en lui disant « Mais pour qui me prenez-vous quand même? Un homme comme vous prendre une femme comme moi, une grande artiste Olga pour une servante, quand même, vous n'y croyez pas ?» C'est d'ailleurs ce qu'elle va lui chanter en se moquant de lui. Ist doch wohl gar zu fein. Adèle se moque d'Eisenstein. Pendant ce temps-là, Falque a prévenu Rosalinde. Faut pas oublier que notre Rosalinde était restée chez elle, pensant passer la soirée avec son amant, et que son amant, par délicatesse, s'est fait arrêter à la place d'Eisenstein. Elle est donc toute seule. Falque, le meilleur ami, soi-disant, d'Eisenstein, prévient Rosalinde, qui arrive masquée et qui se présente comme une altesse hongroise, tout cela pour surprendre Eisenstein, son mari, qui soi-disant était en prison. Eisenstein voit cette beauté masquée et comme on dirait de nos jours, il la drague avec insistance et il la drague avec sa montre. Il a une montre gossée, il lui dit « Regardez, mais regardez cette montre, écoutez-la, ce sont tous les battements de mon cœur pour vous qui battent à l'instant même. » Alors Rosalinde, qui commence à connaître son mari depuis longtemps, mais qui est masquée, va lui prendre sa montre en lui disant « Merci, merci cher monsieur, je garde cette montre en souvenir » et lui confisque sa montre. À cet instant même arrive celui qu'on appelle le chevalier chagrin, qui n'est autre que le directeur de la prison, venu passer la soirée chez le prince Orlovski, et qui se fait passer pour un impresario. À la demande générale, parce que Eisenstein est là, c'est le seul qui n'est pas déguisé, Eisenstein est là et on lui demande de raconter ce qui est arrivé un jour lors d'un bal déguisé avec Falque. C'est là qu'arrive la vengeance. Eisenstein raconte qu'un jour, lors d'un bal déguisé, il avait laissé son ami Falque au petit matin, déguisé en chauve-souris, fin sou, et qu'il l'avait laissé traverser la ville toute la matinée sous les rires des passants. Depuis, Falque avait gardé dans toute la ville le surnom de la chauve-souris. Mais Falque s'était juré de se venger. Pendant ce temps-là, Eisenstein, à la fin de cette histoire, essaie toujours de découvrir le visage de la belle hongroise. Et puis sonne 6 heures du matin. Eisenstein a quand même un rendez-vous à la prison. C'est ça, il n'a pas oublié. Et Franck, le directeur de la prison, doit retourner aussi à la prison. Sonne 6 heures du matin. Écoutez bien.
Oh, schon Courage, Schätzchen, einer streut mich nicht.
Hab ein Gemälde auf der Nase, drum verberg ich mein Gesicht.
Anders Wimmer glaub ich nicht.
Nein, das Wimmer schreckt ihn nicht.
Sehen muss ich des Gesicht.
Ihr muss sehen des Gesicht.
Conclut ainsi le second acte. Le troisième acte s'ouvre dans le bureau de la prison. Franche, le gardien de la prison, arrive auprès de Franck, rentré du bal, à 6h du matin, on peut imaginer dans quel état, pour lui dire que le prisonnier de la geôle numéro 12 demande un avocat et qu'il a fait appel à Blint. Adèle, qui a suivi Franck, le directeur de la prison, qu'elle prend pour le chevalier chagrin impresario, arrive et elle lui avoue qui elle est, mais elle lui demande de l'aide pour sa carrière d'artiste. Survient Eisenstein, lui qui vient pour aller en prison, comme il l'avait dit. Franck cache alors Adèle dans une prison. Et Franck avoue être le directeur de la prison et Eisenstein avoue venir pour purger sa peine. Franck est quand même très étonné parce qu'il lui dit « Mais la veille, je vous ai arrêté chez vous. J'ai arrêté Eisenstein chez vous. » Alors, ça laisse perplexe. Sur ce, arrive Blind, l'avocat. Eisenstein va le pousser très vite dans une pièce et va lui prendre ses vêtements. Et il va se faire passer pour l'avocat. Et donc, comme il se fait passer pour l'avocat, il est introduit tout de suite dans la prison d'Alfred, découvre qu'il est l'amant de sa femme. Arrive Rosalinde, elle aussi. Alfred et Rosalinde demandent l'avocat, se retrouvent devant Eisenstein, le mari. Chacun se sent un peu dupé, ça ne va pas du tout, ça se dispute, jusqu'au moment où... jusqu'au moment où la montre sonne. Cette montre que Rosalinde avait confisquée à son mari, pensant avoir devant lui une belle Hongroise. Eisenstein comprend que la comtesse hongroise n'est autre que sa femme. Tout le monde revient, d'ailleurs avec Orlovski. Et Falke avoue ainsi avoir humilié et s'être moqué de Eisenstein par vengeance du jour où il l'avait fait traverser en tenue de chauve-souris toute la ville. Voilà qui est terminé pour la chauve-souris. Voilà l'opérette La Chauve-souris qui se termine avec le champagne, bien sûr, comme toutes les années. Je vous souhaite une très belle fin d'année pour vous. Vous avez écouté La Chauve-souris de Johann Strauss par le Wiener Philharmoniker, dirigé par André Prévin. Gabriel Dell von Eisenstein était interprété par Wolfgang Brendel, Rosalind par Kirite Kanawa, Frank par Tom Krause. Prince Orlovski par Brigitte Fassbender et Adèle Edita Gruberova. Je voudrais vous souhaiter une belle année 2016, vous envoler sur les rythmes de la valse et vous la souhaiter joyeuse, heureuse et légère.